Entourage, présenté par Kevin et Larbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce cinquième numéro d'Entourage. Merci d'avoir été aussi nombreux au rendez-vous de notre discussion avec la philosophe Marianne Chaillant, la best-seller Marianne Chaillant, où nous analysions la fin de Game of Thrones. Merci d'avoir été aussi nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un podcast, je le sais, très attendu, et pas par qu'une communauté francophone, puisque nous allons parler des 20 ans d'une série culte, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, une série qui s'appelle Queer as Folk, qui a été diffusée sur Showtime à partir de 2000, et diffusée en France sur Canal Jimmy jusqu'en 2006. Une série qui fête donc ses 20 ans, qui est arrivée à un statut culte, une série sur laquelle nous n'aurions pas de série comme Pose ou de série comme The L Word. Et c'est un comédien que j'attends d'avoir depuis longtemps dans mes podcasts, Randy Harrison, l'éternel twink Justin Taylor dans Queer as Folk, qui va être une heure avec moi en discussion. On va revenir avec lui sur Queer as Folk, sur l'importance de cette série, avec des sujets que je n'ai jamais vu aborder dans un podcast ou dans un média francophone. Mais je vais aussi revenir avec lui sur son travail en tant qu'acteur dans les séries Mr. Robot, puisqu'il a joué dans la première saison de Mr. Robot, et également dans Angels in America, l'adaptation à Broadway de la série avec Al Pacino de HBO de 2001 et 2002, bien que c'était une pièce de théâtre tout d'abord, et également de son succès à Broadway dans Cabaret. Je sais que c'est un podcast très attendu. On va donc tout de suite appeler Randy Harrison, et je vous annonce aussi que ce podcast est disponible en version originale et en version française.
Entourage, l'interview.
Can we call Randy? Do we have Alors, him est-ce qu'on peut appeler Randy? Est-ce qu'on l'a au téléphone? Allô, est-ce que tu m'entends?
I can hear you, yes.
Oh, great. Je peux t'entendre.
Et en plus, je peux te voir. Comment est-ce que ça va, live de New York? C'est Paris, comment ça va?
Je vais merveilleusement bien. Et toi, Paris?
Paris est paranoïaque, mais Paris va bien. Je suis très content de t'avoir ici dans le podcast. Ça fait longtemps que je voulais avoir une conversation avec toi. T'inquiète pas si je ne te regarde pas yeux dans les yeux dans la caméra, c'est parce que la caméra est juste là sur la droite. Je suis très content que tu sois ici. Beaucoup de gens m'ont demandé ta venue sur le podcast et même moi je voulais t'avoir depuis longtemps dans le podcast. Merci donc d'avoir accepté mon invitation. Il est 10h à New York, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et tu parles un peu français, Randy, non?
Un peu.
Je pratique plus, malheureusement.
Et puis le français, c'est un langage très difficile, mais je ne désespère pas d'entendre parler français avant la fin du podcast. Alors, on a beaucoup de choses à traiter, parce que, évidemment, tu as été une grande influence pour moi, mais aussi pour beaucoup. Tu as une grande carrière, même si ce mot soit un peu cavalier. On a donc beaucoup à parler. Tout d'abord, évidemment, on va parler du 20e anniversaire de Queer as Folk, cette série extraordinaire, cette série culte extrêmement populaire en France, comme elle l'était il y a 20 ans d'ailleurs. Exactement comme tous les dramas de l'époque, comme Ally McBeal, comme Buffy, comme X-Files. On voue un culte à cette série, comme on le dit en France, un statut de série culte. Vous avez fait une super réunion il y a 2 ans avec Entertainment Weekly, avec un super photoshoot. Tout d'abord, je voulais savoir, parce que toi tu viens plus de l'acting, du théâtre. Donc c'est une question qu'on a dû te poser énormément de fois, mais juste pour commencer, comment est-ce que tu es arrivé donc dans cette série Queer as Folk, dans ce pilote qui était l'adaptation d'une série télé britannique de la BBC, et quel était ton training d'acteur avant?
Oui, j'ai eu le rôle par audition après 5 ans passés au conservatoire d'art dramatique. J'avais fait des pièces durant les vacances d'été me permettant de faire partie de l'Union, syndicat des acteurs de théâtre. Voilà quelles étaient à peu près mes seules expériences avant Queer as Folk. J'ai fait un showcase à New York, j'ai décroché un agent, puis j'ai enchaîné les auditions jusqu'à celle de Queer as Folk à New York. Et puis ils ont voulu me revoir à Los Angeles par 2 fois, la deuxième étant une lecture avec Gail Harold, puis j'ai eu le rôle quelques mois après mon diplôme.
Et toi, tu voulais faire de la télévision ou tu voulais juste faire des pièces? Il me semble que tu es plus allé sur scène, en tout cas à l'époque, non?
Ça dépend, mais à l'époque, oui. Après 5 ans d'école de théâtre, où on te raconte sans cesse que très peu arriveront à vivre du métier, je voulais juste travailler. Je m'en fichais pas mal que ce soit à l'écran ou sur scène. Mais la télévision semblait être un bon moyen, car il y a énormément de séries avec des lycéens, et comme j'avais 22 ans et que je paraissais jeune, bah, je me suis dit que ça serait une bonne voie.
Oui, parce que Justin Taylor, ton personnage, un oncle, a 15 ans dans l'adaptation, dans la série britannique, pardon, et il ne voulait pas avoir de problème aux États-Unis quand ils ont fait l'adaptation, donc il a 17 ans dans ce pilote. Et quand tu as lu le script, juste pour rappeler un petit peu aux jeunes qui nous regardent ou qui nous écoutent, on est d'accord que c'était dans l'ère George W. Bush, qui était alors président des États-Unis. C'était un tout autre monde, donc un petit peu similaire à vos États-Unis maintenant. Mais quand tu as lu le script, est-ce que tu savais que ce serait quelque chose de spécial, de révolutionnaire? Est-ce qu'avant tu avais vu d'ailleurs la série britannique, ou est-ce que tu as juste découvert le script?
Je n'avais pas vu la série britannique, mais j'avais lu des articles là-dessus, un ou deux ans avant d'être casté.
Qu'est-ce que tu veux dire par « tu as lu là-dessus »
Tout le monde parlait de cette série anglaise. En tant que gay, artiste et créatif, je cherchais de la représentation artistique et tout le monde parlait de cette série comme révolutionnaire. Tout le monde semblait l'aimer en Europe, mais impossible de la trouver aux USA. J'ai donc lu des articles dessus. Puis, durant mes auditions, j'ai lu le script et je me suis demandé si ça serait filmé comme tel. Ce qu'on se demande toujours avec doute, surtout à l'époque. Mais si c'était filmé comme tel, ce serait incroyable pour la représentation LGBTIQ+.
A big move forward as far as gay representation.
We're going to be showing. On va montrer une scène justement, et j'aimerais ensuite savoir comment tu as travaillé avec les réalisateurs sur le rôle de Justin Taylor, qui est extrêmement iconique puisque énormément d'adolescents, moi inclus à l'époque, s'identifiaient à ce personnage plutôt. Le personnage était influent à l'époque, il est influent également maintenant. La scène que je vais montrer, c'est l'une des scènes les plus iconiques de la série, c'est la toute première fois où vous faites l'amour, pour ne pas dire un autre mot, avec Brian, et où tu te sens très gêné, où le personnage se sent très gêné. Il ne se sentira plus gêné un petit peu plus tard dans la série. On regarde ça et puis on en parle juste après.
Je suis allergique à pas mal de médicaments. Un jour, mon médecin m'a prescrit des antibiotiques et j'ai failli crever. Pareil pour le diléthyl.
Le diléthyl ? On peut pas être allergique au diléthyl. Le diléthyl, c'est ce qu'on donne aux gens allergiques à tous les autres médocs.
Oh, oui, oh, la codéine, c'est le pire. Tu vois, ça m'a donné une diarrhée d'enfer et la gerbe, je te dis pas, je pouvais rien contrôler.
Eh ben, je vais mettre la boîte sur la dernière étagère, hors de ta portée. Alors, tu viens ou tu te retiens? Ou tu te retiens, tu viens? Ou tu viens et tu restes?
Voilà, donc c'était la toute première scène réalisée par Russell McCahy, c'est ça, je ne me trompe pas? Super. Quand tu as lu le scénario, il me semble d'ailleurs que les toutes premières scènes de relations sexuelles, c'était les tiennes et celles de Gail, donc vous avez ouvert la voie un petit peu à tout ce qu'on allait voir après pour les autres acteurs dans la série. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur, ces scènes? Et est-ce que tu savais que ça révolutionnerait la manière dont les couples LGBT allaient être vus à la télévision?
Oui, j'avais un peu peur. Mais toutes les peurs que j'avais servaient le personnage. C'était la première fois du personnage. Il avait peur aussi. Ça ne peut que me servir en tant qu'acteur. Et j'étais content de le faire. J'ai grandi en cherchant ces représentations. J'avais déjà vu un peu de choses similaires sur scène, et je trouvais ça très important, surtout à l'époque. Je me suis senti soutenu par l'équipe également et par Gail. C'était très porteur. On en a beaucoup parlé avec Gail avant, d'y aller à fond et que ça serait important.
It was helpful to be sort of surrounded by support.
Et j'ai parlé justement déjà de cette scène avec des gens du Casino de Pose, mes amis Ryan, Jamal Swain et Dylan Bursa. Ils m'ont dit que pour eux, cette scène a été très importante quand ils l'ont vue dans la représentation justement d'adolescents gays à la télévision. On a dû attendre 20 ans pour avoir ce genre de scène avec un couple afro-américain dans Pose justement l'année dernière avec Dylan Bursa et Billy Porter. Toi, quand tu faisais cette série et que tu faisais des recherches, quelle était ta représentation? Est-ce qu'on t'a donné des conseils de lecture? Est-ce qu'on t'a donné des conseils de visionnage? Comment ça s'est fait?
Grandir en tant que gay et être entertainer, la recherche, j'avais fait seul avant. Beaucoup d'entre nous, dans les années 90, étions en vraie recherche de représentation. On passait notre temps dans les vidéoclubs ou les bibliothèques à chercher des personnages qui nous ressemblaient. Il y en avait peu. Je me souviens d'Edwig, qui n'avait pas été un film, mais qui se jouait. Il y avait Jeffrey, la pièce de Paul Rudnick, qui est devenu un film. Il y avait Angels in America.
Au même moment, en plus, de ta série.
Non, c'est un peu avant. Il y avait beaucoup de choses sur scène, Larry Kramer notamment, mais pas beaucoup en télévision ou cinéma. Et puis évidemment, History of Pornography était la seule chose qui dépeignait les gays dans les années 90.
Pour Angels in America, en fait, tu parlais de la pièce de théâtre et pas de la série télé. Ça, je me suis un peu trompé puisque la série télé, c'était en même temps que Queer as Folk.
Oui, c'était en même temps que Queer as Folk.
Et j'aimerais revenir aussi sur les arcs narratifs de ton personnage, qui sont très importantes bien avant le mouvement It Gets Better. On va montrer justement une scène qui m'a traumatisé adolescent, et quand j'ai préparé ce podcast, c'était très très compliqué pour moi de voir cette scène aussi. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que c'est peut-être personnel pour des gens comme nous, mais c'est évidemment cette scène d'attaque à la fin de la saison 1, une scène formidable, formidablement filmée. J'aimerais savoir comment justement tu l'as ressenti en acteur et en être humain juste après la scène. Voilà, donc c'est donc le dernier épisode de la première saison de Queer as Folk, réalisé par Alex Chappell, si je ne me trompe pas.
Exact.
Et est-ce que tu te souviens ce que ça t'a fait de tourner cette scène?
C'est différent de la tournée que de la voir, je pense, hein, car la scène de l'attaque... Bon, ce qui était fun, en fait, c'est de tourner la scène au bal de promo juste avant. Car je savais que plus je donnais de joie à mon personnage, le plus traumatisante la violence serait après. Et comme je suis masochiste en tant qu'acteur, j'aime créer une attente et laisser l'histoire détruire le public.
Destroy the audience.
Ok.
Sorry.
Désolé, c'est du récit narratif.
Storytelling.
Indeed. Oui, oui.
I mean, the actual moment of violence.
La violence est très brève, donc facile à tourner. On a dû faire plusieurs en reshoot, pour être honnête, car il manquait des plans.
I think of the season because we had missed a certain angle of, you know, getting the bat.
Dans un espace vide, sans même être dans le garage, on plaisantait, tout le monde essayait de me frapper la tête de différentes manières avec la batte. C'était une fête pour nous, car c'était aussi la fin de la saison.
Pas pour nous, hein.
Je sais, c'est horrible. Plus que la violence, je me rappelle avoir tourné cette scène avec la caméra au-dessus de moi, dans laquelle je suis plein de sang. C'était froid, j'essayais de ne pas trembler. Mais surtout, je me mettais à la place de Justin. Et j'imaginais comme la sensation d'être en urgence devait être horrible pour lui. C'était terrifiant, j'étais assez bouleversé par cette scène.
Emergency medical people freaking out over me and pretending I'm unconscious and being put into this ambulance and then being left inside there. It's a terrifying thing to have to experience. So it was really upsetting knowing that Justin was going through that and being able to imagine what that kind of experience would be like so clearly.
Oui, parce que pour le dire aux jeunes qui vont découvrir cette série, si je ne me trompe pas, cette histoire, cet arc narratif a été inspiré par ce qui s'est passé quelques années avant à Matthew Shepard. Matthew Shepard, c'était un jeune gay qui s'est fait torturer, qui s'est fait enlever et puis torturer à mort aux États-Unis, ce qui avait choqué beaucoup les États-Unis à l'époque. Et je pense que les deux showrunners avaient pensé à ça pour Justin, il me semble, au début de la saison 1.
Oui, je crois. Matthew Shepard est revenu souvent dans nos conversations et dans la communauté gay en général à l'époque.
Dylan Bernstein et Ryan James Sway de Pose, il me disait qu'il ne s'attendait pas à devenir de telles icônes ou de telles statues gays, en tout cas pour les Afro-Américains. Est-ce que toi, à l'époque, tu t'attendais à avoir autant de retours et à être aussi important pour toute une génération de LGBT et de rester d'ailleurs encore maintenant un grand frère? Tu recevais énormément de courriers à l'époque, et t'en reçois d'ailleurs encore, il me semble.
Ah oui, et toujours d'ailleurs. Tu sais, c'est bizarre. Je savais que la série serait populaire et socialement importante. Je m'attendais à ce que Justin devienne important, car il symbolisait beaucoup de choses.
He symbolized something more than he even was a, you know, he was gay youth, he was
jeunesse gay,
sort of this victim in a way,
cette victime d'homophobie à la fin de la saison 1. Il connaît l'amour pour la première fois dans un environnement spécial, ce que vivent beaucoup de jeunes gays. Bref, les gens s'identifient à lui. Mais les réactions ont changé avec les années, ce qui est fascinant. Au début de la série, la communauté gay n'était pas vraiment de notre côté. Il y a toujours une déception quand il n'y a aucune représentation, tant l'attente est grande. Ce fut un peu compliqué pour moi au début. Les gens me confondaient avec le personnage. Puis, avec les années, la résonance de la série et du personnage ont grandi. Les perceptions ont été finalement purifiées, donc à présent, quasiment à chaque fois, on me parle du personnage comme d'un confort avec une vision plus adulte.
It's talking about what a comfort it was and how it changed them and how valuable it was to them. And I think people have a bit more of an adult perspective on it now. And it's still peculiar.
Bon,
it's still
ce genre de réaction reste un peu étrange. Je reste un mec normal qui vit normalement. Mais Justin Taylor et Queer as Folk ne l'étaient pas. Ils représentaient beaucoup pour beaucoup de gens à un moment crucial de leur vie. C'est une juxtaposition assez étrange, mais ça compte énormément pour moi.
Tu
Definitely. And, oui, ça, je veux bien le croire. Et est-ce que tu crois en tant... En tant qu'acteur, est-ce que tu crois que tu avais plus de liberté d'améliorer ton personnage, en tout cas de le découvrir à un moment donné où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas d'Instagram, donc tu ne voyais pas directement les réactions du public, contrairement au cast de Sex Education ou de Pose maintenant, à un moment justement où il n'y avait pas justement de personnages LGBT. Est-ce que c'était plus de liberté pour toi ou est-ce que tu aurais préféré avoir justement ces retours sur les réseaux?
Je ne sais pas. Une partie de moi est ravie que les réseaux sociaux n'existaient pas. Je crois que j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus fragile. Ça aurait pu être vraiment difficile de lire ces critiques. Aurais-je eu assez de force pour les accepter? Là encore, si j'avais été plus jeune, j'aurais eu une relation très différente avec les réseaux sociaux que celle que j'ai actuellement. Je ne peux pas me projeter.
Comment ça? Quelle est ta relation avec les réseaux sociaux maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui aurait changé, je veux dire?
Je suis de nature timide. Je n'aurais pas de réseaux sociaux sans faire ce métier, c'est vrai. J'y suis obligé pour promouvoir mes shows et mes actualités et rester en contact avec mon public. Mais si je n'étais pas une personne publique, je n'y serais probablement pas.
I have a very uncomfortable relationship with it. Whereas I think if I were 10 years younger and I grew up with it integrated into my life at an earlier age,
mais si cela avait existé au début de ma carrière, j'aurais plus intégré ces outils comme outils naturels, c'est sûr.
Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, à l'époque où vous tourniez la série, c'était George W. Bush qui était président des États-Unis. Vous décriviez des choses dans la série en tant que groupe ou même pour ton personnage qui était à l'opposé de ce que disait le gouvernement en place à l'époque, très à l'opposé même. Et 20 ans plus tard, il y a des séries comme Sex Education, comme Pose, ou comme Le Retour de The L World d'ailleurs, qui font la même chose avec Donald Trump, enfin en tout cas sous l'ère Trump aux États-Unis. Pour toi, à quel point ces séries sont importantes pour le grand public à une époque où justement on a un gouvernement comme ça en place aux États-Unis? Pour Queer as Folk notamment, à l'époque avec George W. Bush, ce président-là.
C'est extrêmement important, désespérément important. On doit faire en sorte que les gens, et notamment les gays, se politisent, car nos droits sont sans cesse sur le point d'être balayés. On nous utilise comme outil politique sans cesse. Et je trouve l'art très nécessaire, là. Trump est pour moi bien plus dangereux que Bush, même si à l'époque, jamais je n'aurais cru que quiconque pouvait être pire.
Et qui aurait pu savoir?
Bien, oui, exactement.
C'est
terrifiant. Et puis on tournait pendant le 11 septembre, hein. Et cette réélection tout à fait improbable à l'époque de Bush. Et les choses ont bougé, en bien pour le droit des gays. Mais ce que fait aujourd'hui Trump pour tout démanteler reste extrêmement préoccupant. Tout le monde devrait en parler, notamment sur la discrimination transgenre. On est affecté chaque jour. Toute notre communauté, tout artiste doit en parler, surtout ceux qui touchent ces communautés.
Tu viens de parler de quelque chose d'assez important. J'ai jamais eu, je crois, quelqu'un dans le programme ou dans mes podcasts qui me parlait du 11 septembre. Comment est-ce que, à l'époque, c'était d'être acteur dans ce monde qui changeait? Et Est-ce que tu avais l'impression, comment est-ce que je vais dire ça, est-ce que tu avais l'impression au moment du 11 septembre que les acteurs étaient importants et que l'art était important à ce moment-là? J'en parle parce que j'ai jamais parlé à aucun acteur américain du 11 septembre.
Oui, oui, je suis un New Yorkais. Hein. J'étais d'ailleurs le seul de New York dans le casting. Hein. Donc quand on tournait, je pensais à ma communauté, à mes amis.
In New York during 9/11, I was in Toronto shooting.
On tournait à cette époque-là à Toronto.
I think the day of we stopped.
Et je crois qu'on a arrêté de tourner ce jour-là.
When all that was happening, being an actor and shooting a television show,
c'était impossible. Ça semblait superficiel, ridicule dans un tel contexte.
What are we doing? This is nonsense. We couldn't commit to it for
that
day.
On ne pouvait pas s'engager à tourner ce jour-là.
I need to call my friends. I need to make sure.
Je voulais rentrer chez moi, être avec ma famille.
Make sure my city is okay. But I think creating art during
Mais je crois qu'au final, créer de l'art pendant cette période a ressoudé l'équipe. On s'est réimpliqué plus dans l'aspect politique de la série, dans le fait d'avoir quelque chose d'important à dire.
We recommitted to the political aspects of the show. We recommitted to making sure we had something important to say, because why have
Pourquoi avoir cette plateforme de communication si ce n'est pas pour en faire quelque chose de valeur? La bombe, notamment à la fin de la série, au Babylone, était empreinte de cette envie.
Was colored by the fact that we were making art, we were living through 9/11.
Yeah, definitely. Mais je comprends. Thank you so much for this answer. Merci d'ailleurs pour cette réponse. Évidemment, j'aimerais parler justement de ces épisodes d'attentats avant Orlando, d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus techniquement? Peut-être d'abord de manière générale sur Corasol, qu'est-ce que vous ayez des lectures en groupe? Combien de temps avant le tournage des épisodes? Et puis, comment est-ce que vous travaillez avec, ensemble avec les autres partenaires de jeu, des répétitions? Est-ce que vous improvisiez pendant les scènes? Comment ça se passait, surtout sur ces épisodes d'attentats qui étaient cruciaux pour la série télé?
Oui, on faisait souvent des lectures avec les showrunners, les acteurs, les scénaristes, les producteurs. On le faisait a priori une semaine avant les tournages, pendant les déjeuners.
All the lead cast and as many of the day players that could be available.
Tous les casts et les players importants étaient là. Ça a toujours été très important.
There was no improvisation.
Il n'y avait pas d'improvisation sur le plateau. On suivait le script très clairement.
They were pretty sticklers for us going line by line and
on suivait les dialogues à la lettre, les rythmes écrits. Et parfois, oui, on changeait, mais c'était très rarement, et puis c'était jamais notre fait. Pour les répétitions, ça dépendait des scènes et des réalisateurs et de leur travail collectif, comment ils le faisaient avec l'équipe. Ça comptait parfois plus pour eux, techniquement.
The DP and the design team and the camera movements than acting beats. So eventually, I think especially the lead cast developed a shorthand on the way that we worked together, and we would probably rehearse for about 20 minutes on the set.
On répétait environ 20 minutes sur le plateau, puis ils faisaient toute la partie technique, et puis nous on discutait des différentes options dans l'acting, et puis là on tournait.
To make sure to get a certain way the actors would get together in their trailer or just off set and discuss it and practice different options and do that kind of thing. Okay. I know specifically for the
Et je sais que spécifiquement pour la scène de la bombe, il y avait pas mal d'éléments techniques tout à fait nouveaux, inédits pour moi, avec des Hornets par exemple.
Ils
devaient beaucoup changer les vitesses des caméras, nous changer de place.
Ce qui n'arrive pas d'ailleurs dans Corasol, ce genre d'éléments techniques.
Non, c'était rare. Sauf dans le pilote, où Randy jouait avec le mouvement des corps pour créer de la vitesse à la caméra.
But no, this was a bringing back some of the wackier, more fun techniques that we did a lot in the pilot. So it was.
C'était dans le pilote. C'était assez excitant de jouer avec les techniques sur cet épisode.
Et une dernière chose que j'aimerais aborder avec toi sur Corasol, avant qu'on passe à l'autre série télé justement, et j'aimerais montrer un extrait du dernier épisode de Corasol. C'est une scène dans laquelle tu parles de l'importance, enfin ton personnage parle de l'importance d'être un artiste avec Brian, qui va mener au fait que ton personnage va déménager à New York. Un autre épisode qui a été traumatisant pour toute une communauté. Je vais montrer cette scène et puis on va parler de l'importance de l'art pour ton personnage et pour toi juste après.
Plus mon Brian. Tu es peut-être toi physiquement, tu as peut-être la même voix, mais tu n'es plus mon Brian. Le Brian que je connais n'aurait jamais dit non au plus beau mec de la soirée. Et j'ai pas envie de vivre avec un mec qui est plus intéressé par le jardinage que par la baise.
Je veux tout simplement te rendre heureux.
Tu dois faire ce qui te rend heureux, pas ce qui me rend heureux, moi.
Mais toi, Justin, tu es mal placé pour parler de bonheur. Pourquoi tu ne veux pas aller à New York?
Brian, je m'en fous de New York.
Le monde de l'art est à tes pieds.
J'en ai rien à foutre du monde de l'art.
Pourquoi? Parce que tu as peur?
J'ai peur de rien.
Alors pourquoi?
Parce que j'ai pas envie.
C'est des conneries.
Je dis pas de conneries. Je m'en fous.
Est-ce que tu serais allé à New York si je n'avais pas existé?
Comment veux-tu que je réponde de manière rationnelle à ta question alors que tout ce que tu me dis n'est que pure supposition qui n'a absolument rien à voir avec la réalité?
La question est simple, je veux une réponse.
J'ai pas de réponse.
Eh ben moi si. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui sacrifie sa vie, soi-disant par amour, même si cet amour c'est moi.
Idem pour moi.
Ok, quelle scène, quel final épisode. On ne s'y attendait pas, exactement comme le pilote, justement, c'est un final parfait, exactement comme le pilote, puisque on ne donne pas au public ce qu'il attend, justement. Quelle a été ta réaction quand tu as lu ce script final de Corasol?
Je sais qu'on n'aime pas trop quand je dis ça, pourtant je suis assez défenseur de la fin de la série. Je comprends que d'un point de vue extérieur, le public souhaite que l'arc narratif se clôt avec le couple qui finit ensemble. Mais vu de l'intérieur, je quittais un personnage qui a fréquenté un homme qui était 12 ans plus vieux que lui. Ce n'était qu'un gamin. Et je pense qu'il est important pour quelqu'un, pour un être humain, mais particulièrement pour un artiste, d'avoir des rêves et des buts spécifiques à poursuivre hors d'une relation amoureuse. D'autant plus que cette relation a deux dynamiques très différentes comme celle-ci. Donc peu importe comment l'histoire allait se terminer entre Brian et Justin, je pensais que la seule manière pour Justin de se trouver et d'avoir quelque chose à offrir, c'était qu'il donne de la valeur à son talent et à ses rêves en dehors de la relation. Je pensais qu'il était important qu'il s'aime lui-même tout d'abord et s'accorde de l'importance à ses rêves en faisant ce sacrifice pour les voir se réaliser.
Est-ce que toi, tu aurais fait la même chose sans rentrer dans des choses personnelles? Mais Patrick Stewart, quand il était dans notre podcast, il nous parlait de l'importance de l'art. Pour lui, ça le définissait complètement, ça définissait qui il était. Et que pour l'art, il abandonnerait tout en tant qu'acteur. Est-ce que toi, tu aurais fait la même chose que Justin? Est-ce que tu t'es reconnu dans le choix?
Oui, je me suis retrouvé dans ce choix, surtout à cet âge-là. Je l'aurais fait, et d'ailleurs je l'ai fait de nombreuses fois. Ce qu'il faut sacrifier dans ce métier, c'est un point non négligeable. Donc oui, je l'aurais fait et je l'ai fait.
D'accord, très bien. Oui, parce que Justin, il est passionné. Et toi également. Alors, avant qu'on retourne sur ton travail sur scène, j'aimerais montrer un clip, puisque après Chorus Folk, tu as fait énormément de pièces de théâtre. Tu es un peu workaholic. Je ne sais pas comment tu as trouvé le temps de faire tout ça, d'ailleurs. Mais récemment, tu as fait une série télé très populaire en France aussi, d'ailleurs, qui est Mr. Robot. J'aimerais montrer au public, du coup, un vidéoclip, justement, de toi dans Mr. Robot. C'est dans la saison 1. C'est Tricia Brock qui a réalisé cela. Et puis, ensuite, on va parler de comment est-ce que tu es venu dans cette série 5 ans plus tard.
Vite. Alors ça, c'est certainement pas le problème. Hey. Déjà, hier soir, tu n'as pas voulu discuter.
Oh, Harry, je peux pas non plus maintenant. Il faut absolument...
Respire. Allez, viens prendre ce petit-déj avec moi. Tu es censé savourer.
Mon chéri, je te remercie, mais... Bon sang, si tu savais...
Dis-moi tout, je ne demande que ça.
Ils nous ont piratés. T'es au courant, c'était partout aux infos. Une boîte ordinaire se remet de ce genre de choses, mais nous, on fait de la cybersécurité. Est-ce que tu te rends compte de l'image que ça donne de nous? C'est simple, mon chéri, on est au bord du gouffre. Je sais pas... Si ça se trouve, on a déjà fait le grand saut et moi, je suis là à essayer de me raccrocher aux branches. Je suis qu'un raté. Regarde-moi.
Regarde cet homme qui t'aime tellement que s'il mourait là, foudroyé, il partirait heureux d'avoir été... Simplement assis avec toi devant un petit déjeuner, je ressentirais pas ça pour un raté. Allez.
Alors, comment est-ce que ça s'est passé avec Mr. Robot? Tellement d'années après Chorus Folk, après tellement de travail sur scène et au théâtre, est-ce que ça a été compliqué de revenir à la télévision après tellement de travail en tant qu'acteur sur scène, ou est-ce que la balance s'est bien passée?
Non, pour être honnête, c'était assez excitant. Parce que j'ai accepté d'en faire l'audition. C'était agréable de retrouver un plateau de tournage. Et Mish, l'homme qui joue mon mari dans cette série, je le connaissais du théâtre. Oui, oui. Nous n'avons jamais travaillé ensemble, mais nous jouions dans les mêmes théâtres en même temps. Je le connaissais donc, lui et son travail. C'est un homme charmant et un immense acteur. Je me sentais donc très à l'aise. C'était très intéressant d'être sur un plateau pour quelques épisodes seulement. J'étais habitué à être un personnage principal auparavant, quand tu es toujours sur le plateau, quand tu connais l'équipe entière, que tu as une relation très proche avec le réalisateur, avec beaucoup d'attention sur toi. Mais quand tu viens sur un plateau pour un personnage qui n'a que quelques scènes avec une dynamique d'équipe qui existe depuis déjà un moment, tu n'as plus ce privilège. Et le travail est différent. Pas sur les scènes, le travail reste le même, mais tout est beaucoup plus rapide quant au temps. C'est à toi de te fondre dans des alchimies de personnages qui existent déjà. C'est donc une nouvelle expérience vraiment intéressante à découvrir.
That's more of your job to come in. So that was a new experience and actually really fun to navigate.
Est-ce que tu savais, parce que c'est la première saison dans laquelle tu as apparu dans Mr. Robot, est-ce que tu savais que, exactement comme Chorus Folk, quand tu as lu le script, que ça allait changer énormément de choses pour les minorités ethniques, bien que ce mot soit un peu cavalier? Mais est-ce que tu sentais que c'était une autre manière d'écrire une série?
Je pense que je n'avais pas vraiment idée de l'histoire générale. On lit beaucoup de scripts quand on est acteur et qu'on auditionne, mais je savais que c'était un script spécial, avec une force d'écriture, d'autant que je ne pense pas avoir eu le script entier, mais juste quelques scènes quand j'ai auditionné et eu le rôle. Mais du peu que je lisais, des interactions entre les personnages, je pouvais le sentir. C'était très excitant et différent dès la lecture. J'avais donc l'espoir, mais sans voir l'idée générale.
Voilà. Une nouvelle fois, pour les jeunes qui nous regardent, et pas juste pour les jeunes d'ailleurs, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas Mr. Robot, s'il vous plaît, regardez cette série incroyable. Maintenant, on va un peu parler de ton travail sur scène, mais qui parle aussi de série télé, ton autre passion. J'ai montré une vidéoclip de Angels in America. Une incroyable pièce, et une série télé incroyable d'ailleurs. Et une adaptation sur scène incroyable, parce que je t'ai vu dans Angels in America, et waouh, les critiques autour de ton jeu étaient dingues, et ils avaient raison. Alors, on va montrer juste un clip d'Angels in America, et puis on en parle juste après.
It's so much not enough. So inadequate. But blessed be inadequate. I want more life.
Okay, so how did it happen for Angels in America?
Alors, comment est-ce que ça s'est passé pour Angels in America? Tu m'as dit plus tôt que tu avais lu la pièce jeune, mais est-ce que tu as regardé aussi l'adaptation d'HBO avec Al Pacino et Meryl Streep? Puis c'est en même temps quoi, ça?
Je connaissais Angels in America quand j'avais vu la création originale à Broadway en 94 ou 95. Je l'ai vu deux fois, d'ailleurs, la première partie deux fois et le marathon une fois. J'avais donc lu bon nombre de fois la pièce et j'avais vu son adaptation souvent à l'Alliance Theatre, où elle a été créée à Atlanta, proche où j'habitais. Je connaissais donc le texte par cœur. J'ai fait une masterclass avec Tony Kushner quand j'étais à New York University. Je connaissais donc son travail. Cette pièce a changé ma vie.
Tony Kushner, just for the people. Alors, juste Tony Kushner, pour les gens qui ne le savent pas, c'est l'écrivain de la pièce.
Oui, donc le rôle de Pryor, c'était donc un rêve. N'importe quoi dans cette œuvre aurait été bon à prendre. Cette histoire m'a tant bouleversé, la pièce comme le texte.
Pourquoi est-ce que c'était important justement? Pourquoi pour toi c'est une pièce importante? Pour en tant qu'acteur, pour ce que dit la pièce, pour ce que ça dit toi personnellement?
Eh bien, pour commencer, c'est tellement brillant, c'est un chef-d'œuvre, le plus beau texte écrit dans ce pays ces 50 dernières années. C'est brillant émotionnellement, mais aussi politiquement réfléchi et incorrect. C'est l'une des choses les plus intelligentes que j'ai lues. Et la partie historique sur l'histoire de la communauté gay, l'histoire de l'Amérique, l'héritage de tout ce qui s'est passé politiquement, c'est vraiment tout le temps pertinent. Et de manière plus personnelle, en tant que personne gay, je crois que j'avais 15 ans quand je l'ai vu, juste après avoir mon reveal, être sorti du placard, comme on dit. Je l'ai vu avec mes parents à Broadway une semaine après. Le théâtre dit gay a été un peu ghettoisé en quelque sorte jusque-là, et était plutôt traité comme un sous-genre. Et Angels in America, de mon point de vue, de l'époque adolescente, était la seule pièce tellement parfaite que tous les hétérosexuels, voire des gens du monde du théâtre américain en général, traitaient extrêmement sérieusement cette pièce et ne se moquaient pas ou ne traitaient pas comme d'une pièce gay off Broadway. Non, c'est un chef-d'œuvre. Donc sentir que l'art gay était légitimé à ce point m'a fait me rendre compte que ce que j'avais à dire en tant qu'artiste queer avait de la valeur. Et je n'avais pas besoin de prétendre être hétéro pour avoir de l'expression créative de valeur. Voilà pourquoi Angels in America a changé ma vie. J'ai donc toujours voulu en faire partie, et Pryor est l'un des rôles les plus difficiles que j'ai jamais rêvé d'interpréter.
Pryor est l'un des plus difficiles rôles que I could ever imagine playing, and
Et en bon masochiste, j'aime le challenge. Je voulais me pousser jusqu'au bout de ce que je pouvais faire physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Et rien n'offre ça comme Angels in America et le rôle de Pryor.
Et comment est-ce que tu as fait en tant qu'acteur, puisque ça demande tellement d'énergie, ce rôle chaque soir, même en tant qu'être humain, en tant qu'acteur, physiquement, émotionnellement? Comment est-ce que tu t'as fait pour gérer tout ça?
Eh bien, c'était dur, plus que ce que je pensais, honnêtement. J'avais déjà fait des rôles qui demandaient beaucoup, mais pas au point de Angels.
It couldn't prepare me for doing Angels.
En fait, je ne faisais que jouer la semaine, je ne pouvais rien faire d'autre. On faisait 8 représentations par semaine, avec un seul jour off. Et quand on faisait 2 shows par jour, j'étais sur scène quasiment 8 heures par jour. C'était même vocalement difficile. J'étais obligé de rester au lit quand je ne jouais pas. C'était un engagement vraiment sans pareil. Je pense que nous avons joué à peu près 3 mois, donc pas si longtemps. Oui, non, mais effectivement, c'était dur.
Did you need some time off, physically and emotionally, most important, afterwards?
I did.
Oui, bien sûr, j'avais besoin de couper après. Ce rôle m'a changé. M'a fait me rendre compte de ce qu'il faut sacrifier pour son art et quand ça en vaut la peine. M'a fait me rendre compte ce qu'on est prêt à donner et à quelle échelle. Et quelle sorte de vie privée je peux espérer en donnant tant de choses aussi. Non, définitivement, ça m'a beaucoup appris.
Oui, c'est une pièce qui a changé beaucoup de choses, hein. Même en France, hein, ça s'est joué au Festival d'Avignon ici. Oui, tu as raison, la Comédie Française l'a joué également, les acteurs de la Comédie Française l'ont joué également. Une pièce très très importante sur la discrimination des gens qui ont le VIH, et on n'en parle pas assez en France, donc une pièce très très importante. Maintenant, pour aller dans quelque chose d'un peu plus léger quand même, j'aimerais montrer un clip de Cabaret. Cabaret qui est pour moi un peu mythique. Je t'ai pas vu dans Cabaret pour le coup, j'étais juste vu dans Angels in America, mais j'adorerais te voir dans Cabaret. Une nouvelle fois, toute cette énergie que tu dois dépenser dans Cabaret. Écoute, on va montrer ça aux gens, comme ça ils vont comprendre.
Who's there?
Hunger!
Oh, hunger! See how love flies down the door. Money makes a world. Money makes a world. The clinking, clanking sound.
Alors, voilà, Cabaret. Tout d'abord, quand j'avais dans mon podcast Mr. Rob Marshall, il n'y a pas longtemps, oui, j'ai eu la chance d'écrire un petit bout de mon livre avec lui d'ailleurs, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi passionné sur les choses. Et comment est-ce que... J'ai jamais rencontré Sam Mendes, malheureusement, mais... Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as travaillé avec Rob Marshall?
Alors, je n'ai pas travaillé directement avec Rob Marshall et Sam Mendes, mais ils m'ont choisi pour Cabaret. C'était une audition très longue. J'y suis allé, j'ai interprété certaines chansons et certaines scènes. Puis j'ai eu une session de travail avec Cynthia Anrubia, l'associée chorégraphe de Rob Marshall. Elle est extraordinaire. Elle a travaillé avec lui sur le film Chicago, et elle connaît Cabaret par cœur. J'ai donc appris les chorégraphies avec elle, puis je suis revenu aux deux auditions, on m'a filmé, puis Rob et Sam ont vu les vidéos, et puis j'ai eu le rôle.
And eventually I got the role.
Rob and Sam, sorry, just to hear that, like Rob and Sam, it's like...
Oh. Rob and Sam, ça c'est drôle quand même d'entendre ça, Rob and Sam, pardon.
Oui, pour être honnête, c'est que les gens avec qui je travaille les appellent comme ça, mais nous ne sommes pas intimes.
Oui, mais alors, une nouvelle fois, pour les jeunes qui nous regardent, Rob Marshall, c'est le réalisateur de certains, movies, que, certains films pardon, comme Chicago, Le Retour de Mary Poppins, il a eu d'ailleurs l'Oscar du meilleur réalisateur pour Chicago, il a réalisé Nine. C'est probablement le meilleur metteur en scène de comédie musicale au monde. En tout cas de notre génération. Et comment ça s'est passé les répétitions sur Cabaret? Est-ce que ça s'est fait longtemps? Est-ce que tout de suite tu t'es mis dans le personnage? Parce que j'ai l'impression que tu adores ce que tu fais sur scène. Enfin, en tout cas, quand on voit des extraits de Cabaret.
Alors oui, oui, je m'éclate. Hein, mais ça fait aussi partie du job. Hein. C'est une production que je connais très bien. Je l'ai vue avec le casting original. Hein, je crois qu'elle a commencé en 1996 ou 1997 à New York avec Alan Cumming et Natasha Richardson. Et j'avais vu ce cast. Puis je l'ai revu avec Alan et une autre actrice, puis trois autres fois. Je connais donc parfaitement cette adaptation qui, pour moi, est la meilleure jusqu'à nouvel ordre. C'est juste brillant, intelligent. Pour les répétitions, j'avais par miracle une semaine entière seule avec Cynthia, qui m'a appris les chansons. C'était important car je ne suis pas danseur, bien que j'apprenne facilement une chorégraphie. Mais avoir ce temps avec elle était génial, car une fois que les Kirkcat Girls et le reste du cast nous a rejoints, je savais déjà ce que je devais faire. Ça m'a aidé à jouer ce rôle, car je suis le maître de cérémonie qui connaît toutes les intrigues et mène la danse. Donc, commencer à répéter avec le reste du casting en ayant une certaine autorité sur ma connaissance de la mise en scène, c'était un vrai cadeau. Surtout à ce moment-là.
Je pouvais jouer plus facilement et être dans la bonne position
d'emblée.
Yeah, I mean that role is an absolute thrill because
non,
yeah,
ce rôle est dingue.
It's so joyful and
car oui, c'est
fun,
joyeux et drôle, like mais une nouvelle fois, étant un peu sadomaso et aimant créer d'immenses attentes pour le public, c'est ce que m'offrait ce rôle.
That's exactly what the role's function is in this
production.
I put the audience at ease. I make them feel like they're having the most.
Je leur fais croire qu'ils passent un moment sexy, fun,
joyful, dirty,
joyeux et divertissant. Et puis je leur enlève le tapis de sous les pieds.
Pull the rug out from under them,
ce qui se passait dans le Berlin de l'époque.
What happened in Weimar era Berlin. So, you know, the whole beginning, you're really
donc au début, on rend le public complice de ce monde fantasque, de gens qui couchent ensemble et rient, et puis à la fin, on leur rappelle que pendant qu'ils faisaient ça, ils ignoraient la montée du fascisme, ce qui se passait politiquement dans leur pays, et que maintenant, ils ne peuvent plus y échapper.
Ignoring what's been happening politically in their country, and now they can't escape it.
Definitely. And you said,
tout à fait. Et tu disais plus tôt que tu es le maître de cérémonie. Donc évidemment, c'est ton rôle d'être joyeux et puis de donner au public un petit peu de bonheur. Mais ça te demande tellement d'énergie et tellement de bonheur, ce rôle. Pour les jeunes qui regardent encore une fois, ou ceux qui sont plutôt dans les conservatoires ou dans les écoles de comédie ou qui veulent faire notre business, comme on dit, comment est-ce que tu fais quand t'es pas d'humeur, quand t'es pas en forme, quand t'es pas d'humeur, que t'as pas du tout envie de rire et que pourtant tu dois faire ce rôle qui demande énormément d'énergie comique et de bonheur.
Pour ce rôle, ce qui m'aidait, c'est clairement la musique. Si les ingrédients sont là, tu auras ce dont tu as besoin. L'opening de cabaret quand mon personnage arrive est pour moi l'un des meilleurs openings de comédie musicale. Et entendre tous ces accompagnements sonores au début, d'abord les roulements de tambour, quand j'étais très fatigué, ça me forçait à me mettre dans l'énergie de la musique. Et puis se fier à ces partenaires de jeu, parce que tu n'es pas tout seul sur scène.
It also helps to rely on your fellow cast members. I mean, you're not alone up there. You have support.
And then, tu as donc while it can be dangerous to need an excited, et bien qu'il soit un peu dangereux d'espérer de l'énergie du public, car on ne le connaît jamais, très souvent tu as un public qui te donne cette énergie et ça t'aide.
And even if they don't, it helps to remember,
et même s'ils ne le font pas, ça aide de te rappeler qu'il y a forcément quelqu'un dans la salle qui va vivre la même expérience que toi, tu as vécu quand tu as découvert le spectacle pour la première fois et que tu as eu envie d'être sur scène. Et se rappeler aussi qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un que d'attendre de voir un spectacle, mais de voir que la troupe n'a pas d'énergie, n'a pas envie d'être là.
I think we've all had too, where you're like, that play could have been.
Ça nous est tous arrivé de se dire, mais que leur est-il?
So all those elements,
tous ces éléments, t'aident à te porter sur scène avec envie.
You care, and when you care, that you know that will be enough.
Et si tu as l'envie, ça sera suffisant. Sinon, il faut prendre un jour off quand le corps te le demande.
That definitely fueled me, and that show.
Voilà ce qui m'a nourri.
The material is so perfect.
Et sur ce spectacle, la production est si parfaite que j'ai souvent été épuisé à faire le show. Plus souvent épuisé qu'en forme.
Mais
j'ai toujours trouvé l'énergie pour donner la meilleure performance possible de par l'excellence, encore une fois, de sa production.
I do cherish this answer. Et je chéris cette réponse, encore une fois, une réponse parfaite. Merci beaucoup. Ma dernière question, puisqu'on arrive à la fin de notre discussion. Je sais que ce podcast était particulièrement attendu. Beaucoup de gens m'ont demandé à ce que je te reçoive dans le podcast, depuis longtemps d'ailleurs, en tant qu'acteur, en tant qu'être humain, parce que tu as été une grande influence, et pour moi également. Donc je voudrais vraiment te remercier de tout ce que tu as partagé avec moi aujourd'hui, avec tant de passion. Si tu avais quelques mots à donner à ton public, aux fans de chorus folk français qui te suivent depuis tellement d'années, ou même d'ailleurs pour les jeunes qui vont regarder chorus folk, qu'est-ce que ce serait d'abord, peut-être à ton public d'abord,
des conseils pour regarder chorus folk?
Non, d'abord, si tu avais quelque chose à dire aux gens qui aiment ton personnage dans chorus folk et qui voulaient justement que je te reçoive dans le podcast depuis longtemps, ton audience française, ton public français. Je sais, c'est un peu compliqué.
Non, je dirais merci. Aux gens qui sont tombés amoureux de Justin, qui sont tombés amoureux de Queer as Folk, qui s'intéressent à mon travail grâce à Queer as Folk, puis qui m'ont suivi sur mes autres projets. J'ai un public qui vient me voir à quasiment chacune des pièces que j'ai faites, qui m'ont vu dans le cabaret à New York. Tout cela grâce à Queer as Folk, je dois être redevable de tout ça. C'est une source continue de force, de joie et de plaisir de savoir qu'on s'intéresse à mon travail et qu'on l'apprécie. Et que j'ai aussi aidé à faire réfléchir les gens. Tu sais, souvent c'est aussi un lien social. Être fan de Queer as Folk, ou même de moi, a ramené certains groupes à se rencontrer et à créer des amitiés, des gens qui aiment débattre sur la série. C'est un sentiment extraordinaire. Je leur suis profondément reconnaissant et j'aime les rencontrer.
Ok, le message est donné, et maintenant, comment est-ce que tu conseillerais un jeune, quelqu'un qui a 14 ou qui a 15 ans, gay ou lesbienne, de regarder justement chorus folk? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il regarde la série?
Je leur dirais d'en profiter, de regarder la série avec un esprit ouvert, de se poser des questions, de tomber amoureux des personnages, de prendre parti.
In some ways, if someone was really young coming to it now, especially if they're American or wherever, but
je pense que si quelqu'un de très jeune regarde la série aujourd'hui, particulièrement s'il est américain, il doit se rendre compte de la situation qui a changé pour la communauté gay, socialement et politiquement. Les droits que nous avons acquis maintenant sont différents, mais je leur dirais de ne rien prendre pour acquis et de voir toute proportion gardée que Queer as Folk est un témoin visuel de ce que c'était et de savoir qu'on peut y revenir, voire aller dans de pires situations. Il faut continuer donc de se battre. Et que s'ils aiment Queer as Folk, c'est en soi un acte politique, celui des avocats des droits gays et transgenres. Donc que le fait d'avoir fait cette série était aussi un acte politique, comme en être fan. Et il doit faire perdurer cette flamme.
Une nouvelle fois, je chéris cette réponse. Tu fais quoi en ce moment là-dessus? Tu travailles sur quel projet avant qu'on se quitte? Qu'est-ce que tu es en train de faire là?
Je vais faire une pièce off-Broadway cet été. Je ne sais pas si je vais en parler, car elle n'a pas été annoncée officiellement, mais c'est une super nouvelle pièce. Alors je viens de passer une semaine à la travailler avec le metteur en scène, l'auteur, le cast. Ils font actuellement des réécritures et puis je répéterai en mai pour commencer à jouer en juin.
Donc, une pièce hors Broadway cet été à New York. Ça, voilà encore une nouvelle raison d'aller à New York, puisque j'y vais cet été. Donc, du coup, je vais pouvoir venir te voir. Et si tu viens à Paris, évidemment, tu es le bienvenu sur ce plateau. Merci de nous avoir donné autant de temps pour revenir sur les 20 ans de la série Queer as Folk et puis pour parler aussi de ta carrière assez incroyable. Merci beaucoup, Randy. Ça a été une conversation très inspirationnelle. Je ne suis pas surpris. S'il vous plaît, continuez à suivre Randy ou suivez-le tout court, Randy Harrison Graham sur Instagram. Et comme ça, vous pourrez avoir toutes les infos sur la pièce qu'il fait donc off-Broadway cet été. Merci, Randy. Merci beaucoup.
Merci, à très bientôt.
Et j'espère te voir très bientôt. Voilà, une heure de conversation avec Randy Harrison. Je pense qu'on a couvert pas mal de sujets autour des 20 ans de Queer as Folk. J'espère que ça vous a donné envie de regarder cette série ou de la re-regarder avec une autre lecture. Vous l'avez vu, c'est quelqu'un de passionné et de passionnant. Et je pense qu'il y a énormément de sujets qu'il a abordés autour de Queer as Folk dans cette heure de discussion qui n'ont pas été abordés ailleurs. Et c'est tout le but de ces podcasts Entourage. Je le remercie donc infiniment. Et si vous voulez aller plus loin autour de ce podcast-là, puisque là, on a déjà une heure complète avec Randy Harrison, donc 1h15 d'ailleurs, avec les extraits vidéo, les 4 ou 5 extraits vidéo que nous vous avons choisis avec Randy. Vous pouvez retrouver un débat en podcast sur Beta Série La Radio autour de la sérophobie, un débat que j'ai conduit il y a quelques jours avec Olivier Ciappa, un réalisateur et militant LGBTQI+, important sur la scène française. Nous avons recueilli le témoignage bouleversant de Mathilde, une hétérosexuelle, preuve que la série est de Queer as Folk, qui est ouverte à tout le monde, qui en 2020, comme les personnages de la série entre 2000 et 2005, a souffert de sérophobie en France cette année. Un podcast important également que nous vous mettons sur une autre page sur Beta Série La Radio. Réagissez avec le hashtag Entourage @BetaSérie et @KevinElHarby sur Twitter, Instagram et Facebook. Partagez ce podcast qui, je le rappelle, est également disponible dans sa version originale. Merci encore une fois à Randy Harrison, merci à Mathilde Dandeux qui a préparé l'émission avec moi, merci à toute l'équipe de Beta Série, Rémi, Claudia, Hugo, merci à Jason et à Anthony qui ont réalisé au son cette émission. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles discussions autour des séries. Vive les séries, regardez-les et partagez-les.
Entourage, présenté par Kevin Elarbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.